Alors, on reprend avec, dormir. Un peu plus difficile. Voilà, comment Swep-Swap a donné Hypnos et Somnus. Alors là, vous allez être obligé de poser des hypothèses, hein, de faire des... comment dirais-je ? Des suggestions, parce que il y a par exemple le N qui n'apparaît pas dans la racine, dans le thème. Donc à vous de trouver ce que c'est. Là, il y a beaucoup d'initiatives à prendre dans ce mot-là. Alors, je vous donne une petite clé, en fait.
C'est difficile de deviner. Lorsqu'on a vu les suffixes secondaires, je vous avais donné un, vous vous doutez qu'il y en a beaucoup. Et le N pour les deux mots qui nous occupent
fait partie de cette liste de suffixes secondaires qui vont former des noms. Voilà. Donc, N suffixe. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ?
que devient le O ou le E initial? Ils sont partis. Donc, quelle est l'hypothèse qu'il faut poser au départ? Puisqu'il n'y en a pas, il va falloir partir du thème 3. Il n'y a pas d'autre solution. Hein? Voilà, c'est ça qui est difficile. Moi-même, j'ai mis un temps fou à oser poser des hypothèses pareilles. Mais quand il n'y a pas d'autre solution, hein, donc on part. Alors on part pas sûr, hein, je n'en peux plus de cette expression, moi. On part du thème 3. Voilà. Donc le thème 3, c'est donc soe, be. C'est-à-dire il n'y a plus de voyelles. Et en fait, on a la sonante qui va pouvoir se vocaliser. Mais avant, que se passe-t-il? Le S de l'indo-européen tombe et il laisse comme trace voilà, l'aspiration, c'est-à-dire l'esprit rude sur le phonème suivant. Et la sonante OE se vocalise et donc donne upsilon avec esprit rude. On a donc maintenant, voilà, U, on ajoute le P, on ajoute hein, un suffixe secondaire qui sert à former les noms, et puis on va ajouter os, la voyelle de liaison et le sigma de la désinence, et ainsi on a l'action de dormir, le sommeil. Et ça a donné, bien sûr, quasiment mot à mot, lettre par lettre,
hypnose.
Voilà, l'hypnose, c'est le sommeil provoqué. Alors, pour le latin, somnus, que se passe-t-il? Est-ce que nous sommes obligés de poser l'hypothèse du thème 3?
Non.
Non,
parce que le S.
Alors, c'est pas la question du S qui détermine le thème, c'est. Voilà. Là, on a un O. Donc, c'est le choix. Hein, donc, à l'origine, on a dû avoir swap. Et puis on a ajouté, j'écris, voilà, swap nos, comme en grec, voilà, swap nos, ou swap nos, peut-être. On ne sait pas, en tout cas, ensuite, le we tombe. Et que se passe-t-il? Comment passe-t-on de swap nos à somnus? Ça, vous savez répondre.
L'assimilation.
Pardon?
L'assimilation.
Voilà. La nasale va jouer sur la labiale. Les deux consonnes ne jouent pas dans la même cour. Donc, que va-t-il se passer? On va garder une labiale, mais qui soit nasale. Donc, le « me ». C'est un peu nasalisé. Voilà, c'est donc une assimilation régressive, mais partielle, puisqu'il n'y a pas identité des deux consonnes à l'arrivée. Donc, assimilation non, partielle, et donc le P devient M, et puis le O se ferme en OU par apophonie. Voilà. Donc, sop nos, puis som nos et som nous. Le sommeil, et on a gardé somnolé, somnifère, qui apporte faire somnum, le sommeil. Faites-nous part de vos impressions. Allez-y.
Ce que je vous disais à mes voisines, oui. C'est qu'en français, nous nous sommes en un mot plus fort, un sens plus fort que sommeil. On avait tout à l'heure entre hypnose et sommeil, on le trouve là.
Exactement. Vous avez bien compris. C'est vrai que l'hypnose, c'est le sommeil qui vous plombe. Pas un coma, mais enfin, on préfère un sommeil normal. Voilà. Alors, toucher. Faisons-le ensemble, si vous voulez. Maintenant, vous commencez à être rodé. En plus... Comment ? Voilà. Toucher. Comment arrive-t-on à tango ? Eh bien, pour le A, c'est E, je vais à 2. Alors, cette fois, le N, là, on voit bien qu'il s'insère entre la racine et le suffixe primaire. Donc, c'est bien un indice. Voilà. Et on ajoute le O de désinence de première personne. Et cet infixe disparaît de l'adjectif intégère. Alors, R que j'ai mis entre parenthèses est une désinence d'adjectif. In est évidemment un préfixe. Comme il est compatible avec le T, il n'y a pas de combinaison phonétique. En revanche, que se passe-t-il ? Pourquoi a-t-on affaire maintenant à un E ? Ça n'est pas... On part toujours de E cheva 2. On ne peut pas partir d'autre chose. Donc, E cheva 2, ça donne A. On devrait avoir une tagère.
Une apophonie.
Et ben voilà, c'est tout simplement l'apophonie, puisqu'on a ajouté un préfixe qui a fait passer le ta initial en deuxième position. Intager est devenu intéger. Donc, vous voyez comment, avec un minimum de moyens, hein, les combinaisons phonétiques font fleurir des mots différents. J'aurais pu vous donner aussi « tac tous », où là, le « gue » s'est assourdi, hein, devant le « t ». Et cela a donné intact. Là, l'apophonie n'a pas joué. Alors, je choisis aussi de vous donner contingo. Alors, contingo, donnez-moi l'étape qui précédait. Pardon. Alors, il y a le préfixe. Et puis, on avait au départ tango. Et là, il y a eu apophonie avec une perte d'aperture plus forte que dans intégère. Hein? Du A au E, on n'avait perdu qu'un degré. Du A au I, on en perd deux. Et ça donne, en français, tangente, intègre, contingent, c'est-à-dire qu'on a puisé dans tous les cas de figure, mais la racine est toujours la même. La contingence, même si on ne l'attend pas, c'est bien ce qui nous atteint, ce qui nous touche. On arrive au dernier... Dernier mot, cheva3r, egg ou og, qui veut dire mener droit. et qui donne rego, rogo, erigo et rex. Alors, que devient ce pauvre schwa à l'initiale? Voilà, il disparaît complètement, sans laisser de traces. En grec, en revanche, il ne disparaît pas parce que le verbe diriger, on en avait parlé et c'était là que s'était posé le problème de l'origine, ça donne orego. Voilà. Mais en latin, il disparaît. Le latin fait le choix pour rego de la voyelle e. On ajoute le ge et on ajoute la désinence de verbe première personne, rego, je dirige. Pourquoi rogo? Eh bien, là, il y a eu le choix et de réfléchir. Il n'y a pas d'autre explication. Donc, rogo, c'est je cherche à atteindre comme si on n'arrivait plus à mener tout à fait droit. On s'efforce de mener droit, mais ça n'est pas gagné. Et rigo, de quoi est-ce que cela va-t-il venir? De quel préfixe? Voilà, ex, mais le x tombe devant consonne, donc ex rego au départ, c'est-à-dire dirigé à partir de. Et ex rego et rego subit l'apophonie et ça donne érigé. Et je crois qu'on avait déjà abordé le mot rex. C'est reg plus le s de la désinence du nominatif singulier que l'on graphie. Alors le reg au départ avec un ge et puis la sonore s'assourdit. Hein, il faut toujours passer par là. Excusez-moi, le feutre commence. Voilà, la sonore s'assourdit en que. Et on graphie X. Voilà. Voilà quelques exemples de ce que maintenant vous savez faire tout seul ou presque. Alors nous ne sommes pas encore aussi forts que Turing, mais vous savez décrypter maintenant. Hein, quelques racines indo-européennes. Voilà. Alors, nous en avons fini avec le deuxième volet général et nous allons passer maintenant à ce que j'ai appelé arborescence jusqu'à aujourd'hui. Où je ne vous ennuierai plus trop longtemps ou trop souvent avec les racines indo-européennes, même si elles restent essentielles. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler, donc dans un premier temps de ce troisième volet général, je voudrais vous parler des surprises et des paradoxes. Voilà. De la dérivation. Donc
Voilà, nous allons voir des évolutions inattendues. Et je vais prendre tout simplement des exemples de racines. Et je voudrais faire un gros plan d'abord sur deux racines vraiment extraordinaires. La première est celle-ci. MEDMOD, M-E-O-D, qui est attesté d'un bout à l'autre du domaine indo-européen et qui, d'après Benveniste, a le sens de prendre avec autorité. Dans toutes les acceptions du terme. Prendre avec autorité, excusez-moi, des mesures, c'est important, des mesures appropriées. Alors déjà, vous voyez, c'est bien la première fois que je vous donne une traduction aussi longue, mais c'est parce que cette racine a donné quatre types de sens et vous verrez où je veux en venir. Le premier sens que cela a donné, c'est celui de penser, de réfléchir, et ça a donné bien sûr
méditer.
Voilà, méditer. Avec en latin ce suffixe « it » qu'on appelle un fréquentatif qui indique qu'on pense à plusieurs reprises. Deuxième sens que l'on trouve à partir de cette racine « MEDMOD », c'est « gouverner, régner ». Gouverner, régner. Et ça a donné, en grec, il y a le mot médéo, médo, qui veut dire ordonner, mais surtout, ça a donné le mot méduse, la méduse, avec un M majuscule. Vous savez quel était son redoutable pouvoir. Hein? Voilà, elle vous pétrifiait de son regard, hein? Donc elle vous dominait et elle vous prenez. Le troisième sens, c'est une idée de mesurer dans le sens de gérer. Et on peut penser à notre mot préméditer, c'est-à-dire mettre en place. Mentalement. Excusez-moi, c'est pas gérer, c'est juger. J'écris parfois un peu mal sur mon cours. Voilà, mesurer, juger, donc préméditer.
Est-ce que modérer viendrait de là également?
Non, modérer, ça vient d'une autre racine qui a à voir avec le milieu, médium. Voilà. Alors, le dernier sens, c'est le plus inattendu, c'est soigner.
Médecin,
Et ben voilà. Et le sens de soigner a donné médecine. Et médecin, voilà. Médecin, médecine, etc. C'est-à-dire que c'est celui qui règle et domine les affections, les maladies. Alors, je trouve ces rencontres intéressantes et celui qui m'en a donné l'idée, c'est quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, c'est Pascal Quignard. Voilà. Je vous avais déjà lu quelque chose de lui. Là, ça s'appelle « Sur l'image qui manque à nos jours ». C'est aux éditions Arléa et je vous ai photocopié une page qui parle de celle qui, toute seule, regroupe les quatre sens, c'est une figure de la mythologie grecque terrible, infanticide,
Médée.
Comme quoi les noms sont toujours porteurs de sens et de l'histoire de la personne qui habite affublée. Alors, l'image que Pascal Culinard commente, passer à la photocopieuse n'est pas très esthétique.
Et le modèle ?
Oui, je pense que oui. Je n'ai pas relevé toutes les occurrences. Réponse le 6, le 4 mars.
Non, ce sont les congés.
Ah ben non, pas le 4,
le 3. On a dit qu'on annulait pour finir le 31 mars.
Oui, donc on se revoit le
17.
Le 17.
Le 17 mars. Oui.
C'est vrai qu'ils sont tellement courts ces mois de février, t'es persuadé d'avoir un peu de
temps. C'est habituel.
C'est assez habituel. Arrête de
m'énerver. Et oui, dans 15 jours, nous serons encore en vacances.
La fac ne ferme qu'une semaine. J'ai pas la réponse. La fac ne ferme qu'une semaine.
Je sais bien, mais on était convenus que.
L'UTL est fermée pendant les congés scolaires. Non, non, parce qu'il y a certains cours UTL qui auront lieu la seconde semaine de congé. Ça dépend peut-être des cours, je ne sais pas.
C'est quand je vous ai donné le calendrier, oui. Certains m'ont dit, mais ça va tomber pendant les vacances.
Oui, c'est pas grave.
On a déplacé le cours au 31 mars, puisqu'il y a 5 semaines.
Pas grave.
Oui,
mais
c'est
autant.
Je parle sur moi, mais les vacances scolaires pour les familles.
Voilà, donc on laisse comme ça. 17
mars.
Alors, vous avez la reproduction d'une peinture de Pompéi qu'on voit très mal, mais vous pouvez apercevoir, tenue par la main gauche de l'aîné sur la droite de l'image, un
poignard.
Et sur la gauche, vous avez ces deux enfants et leur précepteur. Vous avez là, sous les yeux, la dernière fresque que nous allons méditer ce soir. C'est précisément la Médée méditante de la maison des Dioscures. La Medea della Casa dei Dioscuri. Cette fresque, hélas, a été détaché du mur de la casa, déposé sur une charrette, et elle a été transportée dans le musée archéologique de Naples, où on n'est pas du tout au bon niveau pour la contempler. Mais d'abord, il faut que je vous donne les noms. Je vais vous les donner en grec, de gauche à droite, Tragos, Mermeros, Phérès, Médéia, contenant Médéios, invisible. Med est la racine du nom de Médée. Deux mots en français en dérivent encore, médecine et méditer. Le mot de médecine vient du nom de Médée la magicienne. Les médecines de Médée, ce sont les onguents, les oints, les cristes, les baumes, les poisons. Tout ce qui permet à Médée de remédier. Fondamentalement, Médée est celle qui médite, méditari, qui prémédite, qui voit à l'avance, qui voit en songe. Dans le monde grec, elle est la chamane qui voit à l'intérieur d'elle-même ce qui monte et va surgir.
sur la fresque de la maison des dieux obscurs sur la droite, Médée est debout dans le temple des rats. Médée médite. Elle a un air penché, étrange, recueilli. Elle tient ses paupières baissées. Ce qu'elle médite monte en elle. Elle n'a pas encore d'intention. Elle hésite. Elle aime les enfants. Elle est son époux. Quelle est la plus grande joie pour une femme ? Se venger de son époux qui lui a été infidèle ? Préserver les petits qu'elle a eus de lui ? Elle est partagée. Elle médite. Elle est déchirée. Elle médite. Elle est extraordinairement belle et dense. Elle se tient toute droite face à nous, à l'extrémité droite de la fresque. Cela grandit en elle. Médée est tout entière à l'écoute de son corps, au sein duquel les forces, les pulsions différentes se combattent. Ses deux mains retiennent son épée. La méditation dans le monde antique s'imagine comme un débat de voix qui a lieu à l'intérieur du corps. D'étranges envies terribles s'avancent en elle, divergent en elle, s'opposent en elle, parlent en elle, elle dialogue avec elle-même. Voilà, c'est un beau texte. Et tous les noms des personnages cités donne lieu à une méditation de Pascal Quignard, mais je n'ai pris que celle qui concerne cette racine-là.
Excusez-moi,
oui.
Qu'est-ce que sont les Christ à cette époque ?
Alors, Christos, en grec, ça veut dire ouin, badigeonner. Voilà. Et ça, c'est tout à fait du Quignard. Il n'y a que lui qui parle des Christ pour parler des baumes dont on enduit un corps. Mais vous voyez son intention, c'est d'approfondir, de densifier et de montrer tous les liens possibles. Et ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est évidemment la dimension quasiment philosophique du langage, comme on l'a déjà abordé ici, et aussi le lien qu'il fait entre la méditation et le corps. Et je trouve que nous avons un mot français immortalisé par Corneille qui rend exactement la même chose, les fameuses stances du Cid. Vais-je me déshonorer en laissant la vie sauve à l'assassin de mon père, ou vais-je me déshonorer en le tuant et en renonçant à l'amour de Chimène ? Voilà. Donc, les stances, star et c'est se tenir debout. Et en même temps, vous pouvez vous tenir debout en oscillant sur un pied gauche et un pied droit. Et je trouve que cette notion de stance, quand vous êtes en... Enfin, vous, je ne sais pas comment vous méditez, comment vous vivez le déchirement intérieur, mais est une image corporelle qui renvoie à une image psychique. Voilà. D'où la force du langage, une fois de plus. Alors, après vous avoir parlé d'une racine qui nous amène à Médée, j'ai choisi une racine qui nous amène à une déesse encore plus sulfureuse que Médée, si c'est possible. Quelle est la déesse au nom latin qui peut être encore plus sulfureuse que Médée ? Ben c'est Vénus, bien sûr, voyons. Alors, nous passons maintenant à la racine wen, won, l'assonante we, la vocalisation et l'assonante ne, qui veut dire au départ force magique, incantation. Et charme, mais charme au sens fort de sortilège. Alors, nous allons procéder par étapes qui n'ont rien de chronologique, c'est pour y voir clair. Cette racine, dans un premier temps, donne en latin
Alors, le we se reste sonante, mais vous savez qu'en latin, le ou consonne ou voyelle s'écrivent de la même façon. Ça donne au départ wen. On ajoute os de la désinence, wenos, qui donne wenus, mais au départ, c'est un nom commun, c'est même un nom neutre, puisque le génitif, c'est weneris. Et wenus veut dire charme mystérieux. Donc, c'est le décalque de la racine indo-européenne. Et ça aboutit au sens de séduction. Voilà, au départ. Et lorsque l'on met la majuscule, après apophonie évidemment, hein, vous l'avez compris, lorsqu'on met la majuscule, eh bien c'est la déesse qui incarne le charme, la séduction. Voilà, qui incarne ces notions. Et au passage, je précise que c'est spécifique du latin. En grec, la déesse que l'on dit équivalente étymologiquement n'a rien à voir puisque c'est Aphrodite. Et Aphrodite, ça veut dire celle qui est née de l'écume. Hein? Voilà, donc on est vraiment dans un domaine spécifique du latin, et si ça vous intéresse, tous ces liens entre le charme, le côté sulfureux lié à Vénus, lisez le magnifique livre de Pascal Quignard, Le sexe et l'effroi. Alors, il est un peu plus épais que celui-là, mais il approfondit tous les liens entre le sexe et l'effroi dans l'imaginaire et la psyché des latins de l'Antiquité. Deuxième étape, je vais reprendre au-dessus pour que tout le monde y voit bien. Voilà, on va sacrifier Montaigne, le pauvre. Alors, deuxième étape, on forme le mot wen, toujours, la racine initiale, on ajoute un suffixe secondaire, er, une marque verbale, hein, il y avait 5 conjugaisons en latin, le a est la marque de la première, et puis la marque de l'infinitif, wenerari, qui a donné vénéré, mais qui au départ signifie user d'un charme religieux pour obtenir quelque chose. Voilà. Donc, j'écris tout ça. Donc, user donc, d'un charme religieux. Bon, tout cela relève de la superstition, évidemment. Hein. Donc, pour obtenir quelque chose. Et petit à petit, ça a signifié chercher à se rendre propice. Et chercher à se rendre propice en vénérant, en priant, en récitant des incantations, en se mettant à genoux, etc. Vénérer, hein, c'est le comble de l'adulation, de la révérence, etc. Chercher à se rendre, pardon, à se rendre propice. Merci de votre vigilance. Alors, toujours dans cette deuxième étape, à partir de wenerari, hein, on a aussi wen et rius, qui signifie qui est adonné à l'amour, hein, qui est attaché à Vénus, et qui a donné vénérien, voilà, qui est adonné à l'amour ou à Vénus, et donc ça explique vénérien, les maladies vénériennes sont les maladies de Vénus. Et toujours dans cette deuxième étape, Wen R. Dier, Wenerdier, qui va peu à peu devenir Wenredier avec ajout d'une épenthèse. Ça va donner le vendredi, hein, c'est-à-dire le jour de Vénus. Et peut-être passez-vous vos vacances sur la Côte Vermeille. À Port-Vendres. Portus Veneris, le port de Vénus. Ah, moi, j'ai longtemps cru que c'était le port des marchandises, du commerce, mais le S posait problème. Voilà, mais c'est Portus Veneris, Port-Vendres. Voilà. Troisième et dernière étape, donc là, Venus, ici avec Vener, hein. Troisième étape, Wen Ya. Donc, un autre suffixe. Wen Ya, c'est la réponse positive à l'acte de Wenerare. C'est-à-dire, vous avez tellement bien fait vos ablutions, vos prières, vos gestes magiques et superstitieux que vous avez la Wenya, la réponse positive. C'est, vous êtes exaucé. Mais ça a donné le sens de grâce, de pardon, et ça a donné donc notre adjectif véniel. Voilà. Ça a donné véniel, un péché qui est pardonnable ou une faute quand on n'est pas porté sur les péchés. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce qui se passe dans une quatrième étape avec un nouveau suffixe. Et puis, on s'en tiendra là. Mais peut-être, vous l'avez deviné. Wen, toujours, bien sûr. S. Nom, voilà, S est un, voilà, là vous avez deux suffixes, Wenes Nom, qui a donné petit à petit, enlevez le S et faites une apophonie, et ben voilà, ça a donné Wenenum, et qui veut dire, en fait, le filtre de Vénus, le filtre d'amour, mais un filtre d'amour, ça peut devenir un poison, bien sûr. Pensez à Iseux et à voilà, Tristan. Au départ, ils ont bu un filtre qui était destiné au roi Marc. Enfin, et ça ne les a, ça ne leur a pas beaucoup réussi. En tout cas, à la fin. Voilà. Et le par rapport à Wenenum. Un autre mot s'est forgé plus tard. Hein. Voilà, plus tard, on arrive à Wenimen, qui a donné ainsi venimeux. Voilà. Donc, on pourrait, autour de cette racine, mettre le titre Amour, poison et vénération. Finalement, à partir de cette racine, de ce mot initial, vous avez un condensé de l'immémoriale histoire du sentiment amoureux. Amour, poison et vénération. Voilà. Je ne vois pas comment dire mieux. Je vous propose qu'on s'arrête là. On finit 5 minutes avant, ça n'est pas bien grave. Parce que sinon, ça nous amènerait trop loin. Et je vous retrouve le 17 mars avec grand plaisir.